Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique réalisée en partenariat avec l'IFRI à l'occasion de la parution de l'édition 2017 du rapport Ramsès. La gestion du phénomène terroriste, la question trouve toute son actualité un an après les attentats qui ont frappé Paris et sa banlieue. 130 personnes assassinées dans la capitale et à Saint-Denis par une dizaine de terroristes répartis en trois commandos. Des actions qui furent revendiquées par l'organisation État islamique dont les auteurs, des Français, des Belgo-Marocains et des Irakiens, avait suivi un entraînement en zone syro-irakienne. La France n'est pas la seule à avoir été frappée ces derniers mois. D'autres attentats se sont produits ailleurs, à Nice, à Bamako, au Mali, aux États-Unis, à Istanbul, à Jakarta, au Burkina Faso, en Tunisie, en Côte d'Ivoire ou encore à Bruxelles. Des attaques attribuées à l'État islamique ou à Al-Qaïda qui témoignent de la mondialisation du djihadisme. Regard sur la gestion du phénomène terroriste avec nos invités. Marc Ecker, chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI, directeur des publications de l'IFRI, rédacteur en chef de politique étrangère. Bonjour.
Bonjour.
Corentin Brusselin, responsable du Centre des études de sécurité de l'IFRI. Bonjour.
Bonjour.
Et Eli Tenenbaum, chercheur coordinateur du laboratoire de recherche sur la défense. Bonjour.
Bonjour.
Le terrorisme, il est depuis des siècles une expression stratégique récurrente. Il touche aujourd'hui beaucoup plus les pays dits du Sud que l'Europe ou l'Amérique. Il n'empêche que les actions dont la France a été la cible, particulièrement depuis janvier 2015 avec Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher, nous conduisent à une réflexion générale sur notre système de défense. 2015 marque-t-elle un tournant ? Qu'est-ce qui a changé pour la France en 2015 et qu'est-ce que ces attentats ont révélé de nos faiblesses ?
Je vais bien y aller. Oui, 2015, oui, je pense que c'est effectivement un tournant. Le terrorisme est devenu très tangible. Nous avons eu en 2015 deux attaques majeures avec la séquence Charlie Hebdo Hyper Cacher, d'abord en janvier, et puis la policière également de Montrouge qui a été tuée. Et puis en novembre, l'attentat le plus meurtrier de notre histoire. Donc évidemment, il y a eu un changement. Cette double attaque, et puis également toutes les petites attaques qu'on a tendance à oublier, les tentatives qu'il y a eu, l'attaque du Thalys, l'attaque de Glam contre l'Église, etc., montrent quand même un certain nombre, effectivement, de lacunes ou de difficultés qu'on a dans le pays face au terrorisme. J'en listerai quatre. Tout d'abord, je pense que ça illustre une difficulté de stabilisation des zones de guerre à nos portes. Et on voit que, dans le cas du 13 novembre, en tout cas, il y a clairement une circulation entre des zones de guerre et notre territoire. Ça illustre ensuite la difficulté à maîtriser les flux depuis ces zones de guerre jusqu'à l'Europe. Et on a vu dans le cas des attentats du 13 novembre qu'il y avait au moins une partie du commando qui s'était infiltré parmi ces vagues de réfugiés. Ça illustre également certaines failles du renseignement, puisque un certain nombre d'acteurs étaient bien connus, même des personnes n'ayant pas accès à des informations classifiées. Une personnalité comme Abaoud était connue. Et puis, ça illustre aussi une difficulté de la coordination au sein même de l'Europe sur ces questions-là, puisqu'on voit que le commando du 13 novembre était arrivé de Belgique la veille des attentats, ce qui rend très difficile, effectivement, la détection, notamment par les services de sécurité intérieure, qui travaillent sur le territoire français et qui n'ont pas vocation à s'intéresser à ce qui se passe dans d'autres pays.
Alors, je vous laisse réagir les uns les autres sur ce que vient de dire Marc Ecker pour ensuite peut-être approfondir. Corentin Brusselin.
Oui, je pense que 2015, ça marque une rupture, mais c'est une rupture qui a commencé avant, j'ai envie de dire. Ce qu'on voit, c'est 2015, effectivement, c'est les attentats qui nous frappent directement, mais c'est l'aboutissement d'un développement qui a commencé avant. 2014, Daesh qui s'empare de vastes zones dans le Levant. Et on voit en fait une dégradation brutale. Et c'est ça le changement majeur pour moi au niveau français, et qui dépasse le niveau français, en fait, qui touche même l'Europe, c'est le changement de logique, c'est la dégradation de notre environnement stratégique qui dépasse le cadre Daesh. C'est Boko Haram, c'est la bande sahélo-saharienne qui se fait également déborder par des tentatives d'émergence d'acteurs djihadistes, et c'est la Russie, la résurgence russe, l'annexion de la Crimée, etc. Donc tout ça, ça participe d'un changement de logique qui fait que tout ce qu'on a fait pendant deux décennies maintenant, après la guerre froide, de mettre à distance le phénomène guerrier, d'intervenir à l'extérieur dans des crises qui étaient des crises très limitées, maintenant ça change d'ampleur, ça change d'enjeu, ça se passe chez nous, donc ça nous touche beaucoup plus directement et ça nous place dans une logique, encore une fois, profondément différente, une logique de nécessité.
C'est ça que vous opposez à une autre logique qui était...
Une logique de choix. En fait, pendant longtemps, on choisissait les crises dans lesquelles on s'impliquait. Quand on débattait de l'Afghanistan, est-ce qu'il faut y aller intervenir, à quel niveau, sous quelle forme, etc. Il y avait un débat, mais c'était des enjeux qui nous touchaient de manière très indirecte. Alors que là, finalement, c'est plutôt l'adversaire qui nous a choisis, et de manière très très directe. Donc, on n'a pas d'autre choix que de s'adapter à Daesh et à la façon dont il s'adresse à nos communautés et dont il tente de nous frapper.
Élie Tenenbaum.
Oui, je suis d'accord avec Corentin dans le fait de prendre davantage de distance et ne pas se focaliser sur 2015 uniquement, même si c'est évidemment une rupture pour la France et dans la manière dont la France a réagi face à ça. Mais dans l'histoire de la menace, on a effectivement, s'il faut toujours s'arquer sur des dates, 2011, la mort de Ben Laden d'une part et les printemps arabes de l'autre, avec évidemment le bouleversement régional tout autour de voilà de la zone méditerranéenne, évidemment le début de la guerre civile en Syrie, qui est véritablement le point central d'un changement de mesure, notamment pour la France, du phénomène djihadisme, hein, cette guerre civile en Syrie, qui a véritablement joué un rôle de catalyseur d'un phénomène qui existait en France auparavant, depuis longtemps, hein, même avant le 11 septembre 2001, mais qui a pris une ampleur à partir de son déclenchement, disons 2012-2013 surtout, qui a pratiquement décuplé en fait les chiffres auxquels on était habitué et auxquels les services de sécurité français était confronté habituellement, c'est-à-dire que là où on avait quelques dizaines de cas, on est passé à quelques centaines, là où on avait quelques milliers de personnes qui pouvaient soutenir, on se retrouve aujourd'hui à des chiffres qui ont été évoqués du type des 15 000 personnes signalées pour radicalisation. Donc on a vraiment eu un changement d'ampleur et ça, je suis d'accord avec Corentin, ça date d'un petit peu avant 2015, mais c'est véritablement ces attentats et ce tournant de l'année 2015 qui a agi comme prise de conscience, et y compris sur le plan politique, ce qui est très important.
Alors, changement d'ampleur, on développera. 2013 a marqué le début d'une intervention française au Mali, l'opération Serval. J'aimerais faire un peu ce petit retour en arrière. En 2004, les attentats d'Atocha en Espagne avaient débouché sur la sortie de Madrid de la coalition engagée en Irak. Il n'y a pas eu pour l'heure d'impact politique majeur des attentats de 2015 sur les orientations suivies par l'exécutif français. Est-ce qu'on peut dire pour autant que les orientations de la politique étrangère et de défense française sont sorties renforcées de la série d'attentats marqués?
Je pense quand même qu'il y a des impacts majeurs, mais effectivement, ça commence peut-être avant 2015. 2015, c'est la prise de conscience par tout un chacun, parce que les attentats touchent les Français dans leur chair à ce moment-là. Mais la prise de conscience même politique date d'avant. On a, dès le printemps 2014, l'annonce d'un plan de lutte contre la radicalisation, la mise en place d'un numéro vert pour signaler les cas de radicalisation, et puis on a des implications militaires. Vous avez mentionné le Mali, qui date effectivement de 2013, qui était plus lié à Al-Qaïda, mais l'implication sur le théâtre irakien d'abord et ensuite syrien date lui aussi d'avant 2015. Donc il faut quand même effectivement remettre ces choses-là dans le bon ordre. Et 2015, il y a des changements aussi majeurs politiques. Regardez l'état d'urgence, l'implication durable de l'armée sur le territoire national. Tout ça, c'est des choses qui comptent. En 2015, on a aussi une nouvelle loi sur le renseignement, alors qui était dans les tuyaux depuis plus longtemps que cela, mais elle se matérialise à l'été 2015. Donc ça, effectivement, c'est des choses qui, à mon avis, sont fortes, traduisent une implication politique quand même très importante, et éventuellement des réorientations dans le sens d'un investissement plus lourd sur les questions de sécurité et de défense durable.
Si je peux ajouter quelque chose, oui, il ne faut pas oublier non plus qu'en 2015, on a vu la révision de la loi de programmation militaire, qui est en fait une révision assez historique, au sens où elle met un terme à deux décennies de décroissance ou de réduction ou de contraction du budget de la défense. Et là, on a pour la première fois depuis très longtemps un budget de défense qui augmente, qui va même au-delà, dès à présent, on est au-delà des estimations qu'on a faites il y a un an sur l'augmentation requise du budget de la défense. C'est quelque chose qui est évidemment nécessaire, qui aurait dû être fait de longue date, mais ça, dans le contexte actuel, contexte politique actuel, contexte social actuel, c'est tout sauf anodin.
Oui, on a vraiment, effectivement, à partir des attentats de janvier 2015 et du mouvement populaire qui s'est dégagé, le véritable bouleversement, c'est que le terrorisme et l'antiterrorisme encore plus devient un sujet principal de la vie politique française, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et même si on avait eu effectivement des adaptations, des changements de direction dans la politique étrangère et de défense, ça restait un sujet quand même mineur pour les Français dans les médias et dans la vie politique d'une manière générale. Aujourd'hui, à l'hémicycle, dans les rédactions, vous en savez quelque chose, l'antiterrorisme est quelque chose qui est omniprésent. Et ça, c'est vraiment, pour le coup, un changement, et un changement important français à l'échelle de plusieurs années, voire même de plusieurs décennies, effectivement. Et les questions de sécurité et de défense, alors après on pourra parler de la question de l'arbitrage justement entre la sécurité et la défense qui en a été fait, qui fait débat, puisque mon Corentin évoquait à juste titre la croissance ou l'arrêt des déflations du côté du budget de défense. Il y a aussi eu des changements et des ajustements importants qui ont été faits du côté du ministère de l'Intérieur et dans une moindre mesure du côté du ministère de la Justice. Donc on a vraiment ce triangle sécuritaire aujourd'hui qui joue pleinement en France dans ces débats. Donc tous ces ajustements, on va dire, ont été vraiment transformé au cours de l'année 2015, poursuivi dans l'année 2016, et on est encore à l'heure où le Parlement s'apprête à débattre de la prochaine loi de finances et vraiment des outils politiques qui seront mis en œuvre dans la question de sécurité et de défense au devant de la scène.
Alors justement, portons ce regard sur les ajustements qui ont été faits. Est-ce que, précisément, la réflexion qui a cours depuis plus d'un an, et les décisions qui ont été prises vous semblent à la hauteur et au niveau de la menace, Marc Ecker?
En fait, il y a eu un empilement de mesures et il faut effectivement prendre le temps de revenir au printemps 2014, ce premier plan de lutte contre la radicalisation, et voir toutes les lois qui ont été adoptées, toutes les mesures qui ont été adoptées depuis. Je ne peux pas détailler, ça nous prendrait presque toute l'émission, mais c'est impressionnant en fait. Quand j'entends certains politiques qui disent que rien n'a été fait, je me dis qu'ils ne regardent pas bien ce qui se fait dans ce pays, parce que vraiment il y a eu un certain nombre de lois, loi de novembre 2014, loi sur le renseignement que je mentionnais avant à l'été 2015, il y a eu dernièrement une loi en juin 2016 aussi sur les questions de lutte contre le terrorisme, avec parfois des éléments très forts et qui passent relativement inaperçus. Par exemple, le fait que maintenant, la consultation des sites web djihadistes est pénalisée. Et on encourt jusqu'à 2 ans de prison ferme pour consultation de sites web faisant l'apologie du terrorisme. Donc ce sont quand même des choses assez lourdes et qui posent question sur l'équilibre entre sécurité et liberté individuelle. Et donc là, je pense qu'il faut, à mon avis, à un moment donné, faire le bilan de toute cette séquence, prendre dans le détail chaque mesure, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et voir éventuellement les effets négatifs qu'il peut y avoir qui sont liés à certaines mesures et qui vont aboutir, à mon sens, à l'arrivée assez massive d'individus dans les prisons, parfois pour effectivement consultation ou apologie du terrorisme en ligne. Et la question qui va se poser après, c'est que se passe-t-il dans les prisons? A-t-on les moyens de prendre en charge tous ces individus? Et a-t-on les moyens de faire en sorte que les prisons ne soient pas des incubateurs de djihadistes, mais au contraire des lieux où on réussit, entre guillemets, à traiter ces individus pour qu'ils ressortent, j'allais dire, dans un sens plus favorable à la société, quoi, que ce ne soit pas des terroristes ambulants. Toutes ces questions sont actuellement sur la table et on n'a pas encore les réponses.
Grand à Bruxelles.
Oui, c'est des réponses qui vont apparaître sur le temps long pour certaines. Il y a, dans certains cas, il y a des ajustements immédiats dont on peut mesurer, jauger l'efficacité, mais il y en a d'autres. Quand vous voulez lutter contre la radicalisation, c'est quelque chose dont vous ne pouvez pas évaluer l'efficacité au bout de 6 mois, et on ne pourra pas évaluer l'efficacité à l'échelle des élections. Bon, c'est l'un des problèmes, c'est que ce sont des dispositifs qui requièrent une attention prolongée et du sang-froid, en fait, et du recul, ce qui n'est pas forcément la chose la plus disponible en période électorale. Mais après, si on s'intéresse après à la posture française, notamment dans ses aspects militaires, je veux dire, on peut penser au fait d'augmenter ou de réduire les déflations des forces terrestres, par exemple. Là, c'est une réponse qui est extrêmement concrète, qui est déjà mise en œuvre et qui va finir d'être mise en œuvre l'année prochaine. Ça va être un vrai soulagement pour les forces, pour leur capacité à se préparer pour les opérations et donc pour rester une force extrêmement crédible et compétente. Maintenant, c'est un modèle qui est en tension. Donc il faut être clair sur le fait que on avait un modèle de défense qui était déjà en tension avant les attentats. Aujourd'hui, on a pris une série de mesures, notamment budgétaires, notamment capacitaires, que ce soit au niveau intérieur ou au niveau militaire. On a pris une série de mesures qui nous rendent plus crédibles et renforcent la capacité à répondre à ce défi-là. Ça reste un modèle assez fragile et il faut être assez clair là-dessus, je pense.
Parce qu'il faut du temps. On est sur un temps long, ce que vous évoquiez à l'instant, davantage que sur un temps court, Elie Tenenbaum.
J'abonde tout à fait dans le sens de Corentin. Et cette tension décrite sur la question de l'appareil de défense, et notamment des forces terrestres, vous pouvez l'extrapoler à pratiquement l'ensemble des autres organes de sécurité et de justice. C'est-à-dire qu'on a vu récemment la situation des policiers et des gendarmes en France qui sont eux aussi suremployés dans des conditions extrêmement problématiques. Et on en parle moins, mais la question de la suractivité du système judiciaire. On a aujourd'hui un parquet antiterroriste à compétence nationale qui repose sur une dizaine de magistrats instructeurs, un petit peu moins de procureurs et un et demi en équivalent temps plein de juges d'application des peines. C'est très peu quand vous pensez au nombre de dossiers qui s'est accru et à la complexité des dossiers qui s'est accru. Un dossier judiciaire comme celui des attentats du 13 novembre... aujourd'hui comporte jusqu'à 600 plaignants dans les parties civiles. On a évidemment une complexité de traitement, d'informations à accumuler, qui fait qu'aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, on a des organes administratifs qui s'adaptent, mais qui s'adaptent plus lentement que la menace, et qui sont aujourd'hui effectivement... au bord de l'explosion pourrait sembler un petit peu pessimiste, mais en tout cas sous une tension forte et une tension qui se reflète ensuite dans le débat social qu'on peut avoir sur ces questions-là. Et c'est de cette tension dont se nourrit le terrorisme.
Marc Ecker.
Pour le résumer rapidement, effectivement, l'ordre de grandeur évoqué par Elie au début, c'est-à-dire un nombre de djihadistes qui a été multiplié, disons, par 10, entre 5 et 10, et effectivement le bon ordre de grandeur. Et évidemment, les moyens de lutte n'ont, eux, pas été multipliés par 5 et 10. Quand il y a un effort qui est fait par l'État, on augmente de 10 ou 15% les moyens de la police, de la gendarmerie, des armées, etc. Ce qui est déjà beaucoup, c'est un gros effort en période de crise. Mais évidemment, la tension reste présente puisqu'il y a un vrai décalage entre le facteur d'augmentation de la menace et puis la possibilité d'augmenter les moyens.
Donc ce que j'entends de ce que vous avez dit les uns les autres, c'est que finalement on va arriver à... Alors il y a eu une capacité de réaction et puis il fallait montrer aussi notre capacité à réagir à ces menaces, mais assez rapidement. Rapidement, un essoufflement et un débordement, c'est-à-dire qu'on va se retrouver assez rapidement sur quelque chose de compliqué à gérer, Corentin Brousselin.
Ça va être compliqué à gérer et il faut être clair que ça va durer. Donc ça va être compliqué à gérer à l'extérieur parce qu'on est impliqué sur une série de théâtres. Et on est également impliqué durablement sur ces théâtres-là, que ce soit dans le cadre de l'opération Barkhane dans le Sahel, où on a 3500 soldats qui sont déployés en permanence pour lutter contre le terrorisme. Il n'y a pas de date fixée pour la fin de la mission, il y a une bonne raison à ça, c'est parce que ça va prendre du temps. Même chose dans le Levant, ça va prendre du temps, ça va coûter de l'argent, on va prendre des risques, comme on le fait déjà. Donc effectivement, c'est quelque chose de dimensionnant à l'avenir et c'est peut-être ça le virage dont parlait Elie tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on se rend compte que ce type de conflit, ce type de mission, cette lutte contre le terrorisme entendu au sens large, ça devient un élément structurant en fait de notre politique étrangère et de défense et ça pour une durée longue, aussi loin qu'on puisse regarder pour l'instant, on n'ose pas. Ça ne veut pas dire que c'est le seul défi. Il faut bien être clair là-dessus, les défis sont nombreux et on ne répond pas avec les mêmes instruments au terrorisme et à la résurgence russe, mais c'est un défi qu'on n'a pas le choix, dont on ne peut pas se protéger comme ça.
La lutte contre le terrorisme, un élément structurant de notre politique étrangère. Il est vrai, par ailleurs, que le terrorisme ne disparaîtra pas avec l'éradication, par exemple, de Daesh au Levant, et qu'il sera plus ou moins grave selon les moments et les crises. C'est peut-être ce avec quoi on peut conclure cette première partie d'émission, Elie Tenenbaum.
Oui, absolument. Non, de toute façon, le spectre des menaces est suffisamment bien garni pour ne pas se limiter à quelques théâtres d'opérations. Et même ces théâtres d'opérations, si on parle de Daesh au Levant, de toute façon, j'ai bien peur qu'il ne soit pas éradiqué ni par la prise de Mossoul, ni par la prise de Raqqa, parce que on est là encore face à des courants profonds de sociétés qui sont en mutation, de conflits qui sont profondément enracinés, qui sont tout autour de l'espace européen. Et dans une certaine mesure, ces tensions et ces potentiels de conflictualité sont également présents dans un certain nombre de sociétés européennes. Donc la menace et les raisons de craindre voilà de nouveaux conflits ou des conflits à proximité sont tout à fait pérennes.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Elie Tenenbaum, Corentin Brustlin et Marc Ecker dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, la gestion du phénomène terroriste, une question qui trouve toute son actualité un an après les attentats qui ont frappé Paris et sa banlieue. Nous retrouvons nos invités, Marc Ecker, chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI, directeur des publications de l'IFRI, rédacteur en chef de politique étrangère, Corentin Brustlin, responsable du Centre des études de sécurité de l'IFRI, et Elie Tenenbaum, chercheur coordinateur du laboratoire de recherche sur la défense. Nous avons évoqué dans la première partie de l'émission les actions dont la France a été victime depuis finalement le début de cette décennie, avec un accroissement en tout cas des opérations peut-être plus spectaculaires en 2015 et ensuite. Est-ce que l'on peut dire que la France est davantage frappée que les autres pays européens et quelles en sont le cas échéant les raisons? Marc Ecker.
On va commencer par le phénomène djihadiste d'abord et les filières syriennes. C'est vrai qu'en valeur absolue, la France a le plus gros contingent. Il y a à peu près 700 Français adultes actuellement sur la zone syro-irakienne et à peu près 400 enfants. Le problème des enfants, d'ailleurs, mériterait d'être traité en soi parce qu'on ne sait pas trop comment on va gérer leur retour. Et ça, effectivement, c'est un chiffre très impressionnant qui, déjà, est très contrasté par rapport à ce qu'on avait pu avoir par le passé, effectivement. C'est un chiffre très, très élevé. Et c'est un chiffre qui nous place au-dessus des autres pays européens en valeur absolue, mais pas forcément de très loin. Dans le fond, le Royaume-Uni n'est pas très loin derrière, l'Allemagne n'est pas très loin derrière, donc je pense qu'il ne faut pas non plus pointer du doigt la France en disant c'est le mouton noir de l'Europe, ce serait beaucoup trop facile. Et puis en chiffres relatifs, il y a d'autres pays qui en réalité sont plus touchés. La Belgique a un contingent relatif plus élevé que la France, même un pays comme le Danemark a un contingent relatif plus élevé. Donc là, attention, oui, c'est vrai qu'on a un problème particulièrement visible en France, mais en réalité, les autres pays européens sont touchés, et c'est d'ailleurs, je pense, une des spécificités de la menace, c'est qu'elle touche quasiment tout le monde en Europe. Il y a quelques pays qui sont moins touchés, mais en réalité, vous avez en tout cas une bonne douzaine de pays qui ont un vrai problème djihadiste.
Alors la menace est une chose, mais finalement les actions peut-être aussi ont placé la France particulièrement sous les feux de la rampe. Je pense aux actions terroristes, Marc Ecker. Alors une explication par rapport à ça, est-ce qu'elle est en corrélation avec le nombre de djihadistes partis sur place ou elle est à déconnecter?
Alors la France est aussi peut-être plus visé dans la propagande de Daesh, notamment parce qu'on est désigné comme le diable en raison de la laïcité qu'on met souvent en avant. On est souvent montré comme un pays anti-musulman par la propagande de Daesh, du fait de nos lois qui ont été votées d'ailleurs pour préserver le principe de laïcité. Daesh a beau jeu aussi de dénoncer nos interventions extérieures comme étant une forme de guerre contre l'islam, ce qui n'est bien entendu pas du tout le cas. Mais là, encore une fois, il y a effectivement eu des attentats en France. Il y en a eu aussi en Belgique d'ailleurs, mais il y a eu de nombreux attentats qui ont été déjoués dans d'autres pays. Récemment, la police de Londres a communiqué sur le nombre d'attentats déjoués depuis 2013. C'était une dizaine d'attentats déjoués. Bref, ils sont pas passés loin non plus de la catastrophe. Et je pense que aujourd'hui, tout un tas de capitales européennes, ou d'ailleurs d'autres villes, pourraient être visées. Ça pourrait se passer à Berlin, ça pourrait se passer à Londres ou ailleurs. La menace est globalement très élevée sur tout le continent européen.
Corentin Brustlin.
J'aurais du mal à ajouter quelque chose à ça. Je pense que ce qui marque, c'est précisément l'ambition de la menace qui s'adresse à une pluralité de sociétés occidentales qui nous cible par certains aspects directement, mais qui en fait vise à affaiblir et à frapper des sociétés, des démocraties libérales. En fait, notre cohésion nationale, ils essaient de porter atteinte à ça en encourageant des dissensions, en encourageant des amalgames, en encourageant l'escalade, etc. Donc je pense que ça, c'est un des éléments marquants, à mon avis, du phénomène actuel.
Elie Tenenbaum.
Je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. On peut rajouter que la France joue aussi un rôle important dans la coalition, dans la lutte contre Daesh, mais plus généralement un rôle particulièrement actif sur la scène internationale dans la lutte contre le terrorisme, du fait de son rôle de puissance globale depuis longtemps, de son siège permanent au Conseil de sécurité, et évidemment de ses forces armées, de ses relations privilégiées qu'elle entretient avec un certain nombre de pays africains et moyen-orientaux, mais surtout dans la bande sahélo-saharienne. Et évidemment, à ce titre, titre, la France apparaît comme un adversaire particulièrement farouche de ces organisations terroristes. Et donc, il est logique, à ce titre, qu'elle symbolise, disons, ce qu'il y a de plus actif dans les pays européens. On ne parle pas des États-Unis, qui est un cas à part. Mais dans les pays européens, l'un des pays les plus actifs dans cette lutte contre le terrorisme. Donc évidemment, on ne peut pas dire que ça ne compte pas, là encore, dans le fait qu'elle apparaît comme une cible peut-être privilégiée parmi d'autres. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Marc, le terrorisme et les organisations terroristes sont des organisations opportunistes, et s'ils ont l'occasion de frapper un grand coup à Londres, à Berlin ou n'importe où en Europe, ils le feront.
Alors justement, j'aimerais rebondir sur les États-Unis, Marc Ecker. On voit les vocations djihadistes finalement plus rares de l'autre côté de l'Atlantique qu'en Europe. Et cela en dépit d'une politique américaine qui est beaucoup plus agressive. Est-ce qu'il y a une explication ? Est-ce que les Américains se protègent mieux que nous ne le faisons ?
D'une part, ils ne sont pas immunisés. Il y a eu un certain nombre d'attaques spectaculaires au cours des derniers mois. J'en mentionne deux, Orlando et puis San Bernardino. Donc il y a aussi des attaques là-bas. Maintenant, c'est vrai qu'il y a moins de djihadistes américains, notamment en Syrie et en Irak. Je dirais que l'avantage des États-Unis, c'est que c'est une île, si je puis m'exprimer ainsi. Ils sont loin du théâtre, ils peuvent contrôler les entrées et les sorties, notamment par voie aérienne. Et puis, effectivement, ils ont investi massivement dans leur sécurité et ils ont des modes d'intervention et de renseignement peut-être beaucoup plus agressifs, entre guillemets, qu'en Europe, avec notamment, on a vu plusieurs cas où le FBI, par exemple, jouait le rôle de recruteur quasiment et du coup pouvait intervenir très en amont et presque en fait susciter des vocations djihadistes, ce qui pose un certain nombre d'ailleurs de problèmes éthiques en matière de renseignement. Mais oui, ils sont protégés, mais je pense que j'insisterai vraiment sur l'aspect géographique. Ce qui a aussi fait que la menace est devenue si élevée en Europe, c'est qu'on est à quelques heures d'avion ou même de voiture du théâtre, du sanctuaire djihadiste. Et ça compte quand même énormément, quoi.
Alors, en vous posant la question, je n'avais évidemment pas oublié les attentats de septembre 2001 contre les tours jumelles à New York. Elie Tenenbaum.
Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Marc, et cette question de proximité géographique est centrale dans la mutation du djihadisme tel qu'on l'a décrit au tournant 2012-2013, en fait, vraiment avec ce rôle catalyseur qu'on évoquait plus tôt déjà de la guerre en Syrie. Cette question des vols charters, entre guillemets, pour le djihad, a joué un rôle central. Vous parliez de 2001, on était encore à l'époque dans une forme de terrorisme qui était planifiée depuis l'extérieur, quasi professionnalisée d'une certaine manière, et envoyée sous une forme véritablement commando, un petit peu comme ce qu'on aurait pu voir ensuite pendant le 13 novembre en France. Mais parallèlement à ce terrorisme professionnel ou semi-professionnel qui continue d'exister et qui continue de constituer une menace, on a eu cette forme de terrorisme un petit peu bottom-up qui s'est développé, ce que les anglo-saxons appelaient le home ground terrorist, hein, les terroristes natifs développés à la maison, influencés par la propagande, etc. Ce qui pouvait, par leurs propres moyens, rejoindre les zones de conflit, s'y entraîner pour quelque temps, parfois très peu de temps, repartir, revenir ensuite dans les pays dont ils étaient issus pour y commettre des attentats peut-être moins spectaculaires, mais plus nombreux, et posant plus d'enjeux politiques et sociaux sur la question de la manière dont on gère nos propres populations. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est développé avec cette proximité géographique des théâtres. On parle de la Syrie, on parle d'ores et déjà, et on va parler de plus en plus de la Libye, et évidemment de tout le bassin méditerranéen qui fait partie d'un ensemble géographique commun avec l'Europe. Et ce qui n'était pas le cas à l'époque de l'Afghanistan, par exemple. On se souvient très bien que les Français qui partaient en Afghanistan ou au Pakistan, ben c'était plus compliqué pour aller rejoindre ces zones qui étaient très reculées. Et du coup, c'était plus facile de les repérer également. Évidemment, c'est une autre paire de manches pour la zone méditerranéenne.
Alors, l'Europe, justement, la solidarité européenne, la France, au lendemain du 13 novembre 2015, avait demandé le soutien à ses partenaires européens. Il s'est manifesté, ce soutien, de manière, somme toute, assez hétérogène et sans que l'Union européenne joue un grand rôle. On aurait espéré que le 13 novembre constitue une occasion de progrès vers une possible défense commune qui souhaite Moi, je peux réagir, Corentin Vosselin.
Déjà, il faut être clair que la France a fait le choix de se tourner vers l'Europe au lieu de se tourner vers l'OTAN quand elle a été agressée.
Elle avait l'article 5, elle avait eu l'occasion de faire appel.
Et il y a eu un débat. Le choix a été fait de se tourner vers l'article 42, alinéa 7, qui fait appel à la solidarité européenne. Et elle a eu lieu. Mais ce choix, c'est pas un choix qui consiste à dire vous allez nous aider au quotidien sur tout ce qu'on fait contre le terrorisme. C'est un choix qui a consisté à dire aidez-nous quand on est en Afrique, quand on se déploie en opération, soulager en fait le fardeau qui est le nôtre, parce qu'il y a un certain nombre de choses que la France fait sur les théâtres d'intervention qu'elle est la seule à vouloir faire, à accepter de faire ou à pouvoir faire. Donc il y a tout un panel de choses qu'elle peut faire en Afrique, on peut y revenir, ou qu'elle fait déjà en Afrique, et qu'elle est la seule à pouvoir faire parce que les autres ne veulent pas prendre des risques, n'ont pas les bonnes capacités. Donc la solidarité européenne, elle est passée par des pays qui ont contribué en donnant des conseillers militaires, qui ont fourni un appui en termes de ravitaillement en vol, en termes de transport, en termes d'évacuation médicale, de soutien médical sur le théâtre. Et tout ça, c'est pas du tout anodin, parce que quand on est dans une situation de tension sur nos capacités, quand on est dans une situation où on est surétendu en termes de théâtre d'opération, ce type de capacités qui sont rares aussi, celles que peuvent fournir les alliés européens, nous soulagent vraiment.
Marc Ecker ?
Oui, moi j'aimerais réagir effectivement de manière un peu différente. Je crois que en fait le 13 novembre et toute la séquence qui a suivi a montré qu'en fait il y a des niveaux très hétérogènes de prise en compte des questions de sécurité et de défense au sein même des pays européens, au sein même de l'Union européenne. Mais j'allais dire, la réponse n'est pas tant au niveau des institutions européennes qu'au niveau des États eux-mêmes. On s'est rendu compte qu'en fait il y a beaucoup trop d'États au niveau de l'Europe qui se reposent sur l'idée européenne comme prétexte pour ne pas investir eux-mêmes dans leur propre sécurité et dans leur propre défense.
Pensez à quoi précisément ?
Je ne veux pas citer d'État, mais enfin bon, vous avez eu un rapport récemment sur les failles en Belgique, de manière à aller un peu plus politiquement correcte. Prenez les chiffres donnés par l'OTAN et le pourcentage du PIB investi par les différents États européens dans leur défense. En fait, il y a vraiment une très très forte hétérogénéité et vous voyez que certains États ont quasiment démissionné. Or, cette logique n'est pas vraiment acceptable. Il faut maintenant pousser les différents États à réinvestir au moins dans leur capacité nationale pour après, dans un deuxième temps, éventuellement mutualiser certaines choses. Mais j'allais dire, on ne peut pas sauter cette étape nationale pour passer tout de suite à l'étape de la mutualisation européenne, parce que si on n'a rien à mutualiser, ça n'aidera pas beaucoup.
Élie Tenenbaum.
Vous avez vraiment un enjeu aujourd'hui de la survie du projet européen, qui était un projet de libre circulation, de mutualisation, d'interdépendance, qui est parvenu à un degré inédit au cours de l'histoire de l'humanité, d'échanges non contraints, et ce qui n'a pas été associé avec une sécurisation des frontières extérieures, qui fait que aujourd'hui le terrorisme, qui, d'une certaine manière, reste un phénomène mineur au regard des grandes transformations sociales et économiques, aujourd'hui est susceptible de mettre en danger ce grand projet. Et on a vu d'ores et déjà, alors c'est lié aussi avec la question des flux de migration issus de la guerre en Syrie, mais d'une manière générale, on a vu d'ores et déjà des pays fermer leurs frontières. Et c'est arrivé même pour la France au lendemain du 13 novembre, ce qui était une première depuis la constitution des accords de Schengen. Et on est aujourd'hui véritablement avec un enjeu de survie pour le projet européen, qui est menacé très directement par ce problème du terrorisme notamment, et auquel on a l'impression qu'on a effectivement une absence de réaction adéquate de la part des États.
J'aimerais ajouter que c'était très peu anticipé. Moi, j'ai été très frappé avec Ellie il y a quelques années. On était allé à Bruxelles rencontrer les personnes qui, au niveau de l'Union européenne, s'occupaient de ces questions, et ils se sentaient très très seuls. C'était avant le début de la guerre en Syrie. Ils nous disaient on sait, nous, les spécialistes, qu'il y a encore des risques, encore des menaces, mais on n'est pas du tout audible. C'était à la période de la crise financière, et à l'époque, on disait c'est la crise financière qui menace l'Europe. Maintenant, effectivement, on a cette menace terroriste qui arrive, il y a la question des réfugiés, et en fait, on a l'impression que l'Union européenne est constamment en mode réactif, et que en mode réactif, en fait, les politiciens des différents États membres sont plus à l'aise à l'échelon national, et du coup se replient sur cet échelon.
Et le Brexit n'est pas là pour arranger les choses. Corentin Brousselin.
Oui, je voulais confirmer ce qu'avaient dit mes collègues en soulignant deux choses. D'abord, le fait que, effectivement, l'Europe avait longtemps vécu dans une bulle, et les institutions européennes reflètent reflétait assez bien cette bulle, cet état d'esprit, qu'on était un peu au-delà de la guerre. On avait dépassé ce stade d'évolution quelque part, et que ça, c'était du passé, c'était un mode arriéré de règlement des différends. On se rend compte maintenant qu'il y a une prise de conscience à l'échelle européenne, qui a un début de prise de conscience en tout cas, sur le retour du phénomène guerrier et le retour de la nécessité d'investir dans ses capacités de défense. Donc maintenant qu'il y a une stabilisation des dépenses de défense en Europe depuis un an ou deux ans, tout le monde se gargarise en disant « ça y est, on a pris conscience, maintenant ça va mieux se passer ». En fait, si on veut que ça porte vraiment ses fruits, il faut que ça se passe comme ça, mais pendant 10 ans. Et le deuxième point de vigilance, pour rebondir sur ce que disait Élie, c'est vraiment la résilience. C'est la résilience qui se joue à la fois au niveau national, à chaque niveau national, c'est-à-dire comment est-ce que, dans un état donné comme la France, on encaisse les attaques terroristes, au niveau organisationnel, comment est-ce qu'on répond dans l'urgence, mais aussi au niveau social, au niveau politique aussi, comment est-ce qu'on gère ça comme événement, au niveau médiatique également, bien sûr, et ça se pose aussi au niveau européen, et c'est là qu'on se rend compte de la fragilité de l'ensemble, ce que disait très bien Élie, c'est qu'on voit que des attaques finalement limitées, la survie de l'Europe en tant que telle n'est pas en jeu, on n'est pas face au nazisme, mais on voit la montée, en réponse en partie à ce type d'attaque, à ce type de menace, on voit la montée de partis populistes partout en Europe, qui finalement ont des valeurs qui vont au détriment de la construction même de l'Union européenne, et donc qui remettent ça en cause. Donc en fait, on se rend compte que les bases sur lesquelles tout cet ensemble a été constitué, petit à petit, pourraient être en train de s'effriter sous l'effet de cette menace.
Alors, pour aller peut-être un petit peu plus loin, j'ai cette image qui est parue dans la presse à propos de la politique américaine, de ce qui arrive à l'Europe aujourd'hui, où on voit une jeune femme devant un évier rempli de vaisselle à laver, etc. Et avec ce commentaire, l'Europe doit faire la vaisselle qui a été salie par les États-Unis. C'est finalement une image qui vient un peu peut-être trivialement, mais rassembler un peu les propos qui ont eu cours autour de cette table sur ce sujet de la gestion du phénomène terroriste, Marc Ecker.
Il faudrait que je voie le dessin en question pour mieux me rendre compte de ce que ça veut dire, mais la vaisselle salie par les États-Unis qui serait nettoyée par l'Europe, je sais pas, j'ai l'impression que c'est attribuer beaucoup de responsabilités aux États-Unis quand même, et je pense qu'il faut aussi que les sociétés qui sont touchées directement par le terrorisme essayent de s'interroger sur leurs propres responsabilités sans trouver immédiatement un défossoir extérieur. Vas-y, Quentin.
Je pense que la métaphore, c'est une figure qui avait été employée, la vaisselle, c'est une figure qui avait été employée au moment où, en gros, les Américains expliquaient qu'ils étaient les seuls à posséder des capacités militaires pour intervenir à l'extérieur et que l'Europe, en fait, s'occuperait de ce qui restait. Et la façon dont ils avaient tourné la chose, c'était « on va cuisiner et vous ferez la vaisselle ». Donc pour dire, en gros, nous, on va faire le cœur du job et on vous laissera, en fait, faire les petites tâches. Et là, je pense que la caricature retourne cette métaphore-là contre les États-Unis.
Rapidement, pour terminer, deux très très grands terrains, l'Afrique d'un côté, le Levant de l'autre. Est-ce que les solutions à ce qui se passe sur ces deux terrains peuvent être les mêmes, Élie Tenenbaum?
Non, mais c'est évidemment pas avec des recettes de cuisine qu'on résout des conflits interétatiques et intraétatiques. Mais dans les deux cas, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la solution, elle ne repose que par le dépassement du conflit politique, social, économique, qui alimente aujourd'hui tant les territoires moyen-orientaux que les territoires africains concernés par le terrorisme. Et que dans ces deux cas, je crains que la France et les pays occidentaux d'une manière générale n'aient pas les clés pour aller au bout de cette résolution de conflit. On peut limiter la menace, on peut l'endiguer, on peut continuer à essayer de sécuriser certaines zones. Mais compte tenu de nos moyens et compte tenu de la nature de ces conflits, ce ne sont que ces sociétés elles-mêmes, il ne faut pas les déresponsabiliser, ce sont aux Irakiens, aux Syriens, aux Maliens, aux Africains en général, de prendre la responsabilité de la société qu'ils veulent construire pour eux, et ensuite à la France, aux pays occidentaux, de coopérer dans la mesure où il est possible et de défendre leurs intérêts.
Merci, c'est la fin de Géopolitique, réalisé en partenariat avec l'IFRI à l'occasion de la parution de l'édition 2017 du rapport Ramsès, et nous évoquions la thématique de la gestion du phénomène terroriste. Merci Marc Ecker, chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI et directeur des publications de l'IFRI et rédacteur en chef de Politique étrangère, Quentin Brousselin, responsable du Centre des études de sécurité de l'IFRI, et Élie Tenenbaum, chercheur coordinateur du laboratoire de recherche sur la défense. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI. RFI et également sur Facebook, Géopolitique le débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Samedi prochain, Géopolitique sera consacrée à l'Iran.